Club Anna Kofi, l'émission dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine sur Radio Patrimoine, présentée par David Charlet et Fabrice Coustet.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur ce nouveau numéro de Club Anna Kofi. Je suis ravi de retrouver David Charlet. Bonjour David.
Bonjour.
Le président de Anna Kofi, comment ça va David ?
Ça va très bien et vous ?
Très bien, toujours très occupé. On a vu votre planning chargé. Vous avez traversé les mers et les océans pour cette semaine créole. Vous allez nous en parler. On va avoir les actus générales de la profession. On va parler des événements. Y a-t-il trop d'événements ? Des bugs également. Des nouveaux du côté de l'assurance emprunteur. Attention également aux suites du Covid et ensuite bataille des rémunérations. On passera ensuite à l'actu de l'Anna Kofi, là aussi, actualité extrêmement dense, le grand débat qui se prépare, la réforme du courtage, l'ESG et bien sûr le Tour de France. Est-ce qu'on est passé vers un monde d'après avec ces classes virtuelles ? David Charlet va nous en parler. On commence tout de suite avec l'actu.
Club Anna Kofi, l'actualité.
David, on commence avec l'actu et ces bugs, ou plutôt ces incidents de marché qu'on a observés ces dernières semaines.
Oui, on sait que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. On sait que faire de la gestion de patrimoine ou faire du conseil, ça intègre une dose de risque. Et on voit quelques opérations qui ont posé problème. On pourrait citer H2O ou un certain nombre de club deals, dont certains d'ailleurs que nous découvrons. On ne sait même pas que nos membres pouvaient les avoir proposés. Alors, c'est pas forcément un grand nombre, mais voilà. Et donc, on a quelques incidents là. Identifié avec les premiers effets sur les RC professionnels attendus, puisque un certain nombre d'assureurs disent ça commence à coûter cher ou ça pourrait coûter cher.
Il y a eu des pertes déjà justement sur ces fameux club deals ou sur l'épisode H2O, des épargnants qui ont perdu de l'argent.
De ce que l'on entend, oui, bien sûr, oui. Donc, apparemment, bien sûr. Il y a des gens qui constatent que une partie de ce qu'ils possèdent sur le papier soit n'a plus de valeur, soit ne sera pas recouvrable. Ça, bien sûr. C'est pour ça qu'on parle d'incident, d'ailleurs. Hein, si on a juste un blocage et qu'on en voit la sortie, c'est un autre sujet. Voilà. Si les assureurs RC commencent à dire attention, on va devoir monter nos primes, c'est qu'il y a à minima des négociations avec, pour eux, dans la négociation, une sortie d'argent de l'autre côté.
Bien sûr. Et voilà, un moment où on a aussi beaucoup d'argent, mais une euphorie aussi sur la bourse. Attention, évidemment, à ces incidents qu'il faut suivre, notamment de la part des professionnels. Tiens, justement, ces professionnels, ils se réunissent depuis la rentrée, levée des restrictions sanitaires, on va dire ça. Une fois qu'on a le pass, maintenant, on peut aller un petit peu partout. Du coup, multiplication des événements. D'où, David, cette question. Est-ce qu'il y a trop d'événements en ce moment pour les conseillers en gestion de patrimoine ?
Je pense qu'il y a trop d'événements tout court. Je pense que c'est pas propre à nos professions, mais on est tous à la course.
Trop sollicité.
C'est-à-dire que nous, en plus, c'est le pire de tout. Les représentants de la profession sont donc des gens qui, au nom des professionnels, doivent aller un peu partout parce que leur organisation professionnelle est invitée partout. On est en absolue incapacité, au jour d'aujourd'hui, pour quelque élu que ce soit, de participer à tous les événements, ne serait-ce que d'importance. Point barre. On peut pas faire... C'est plus possible tellement il y en a. Donc, en gros, on est en train d'essayer à minima de concentrer ce qui se faisait habituellement en 6 mois en l'espace de 2 mois et demi, 3 mois. C'est donc absolument impossible de le faire. Et j'avais dit au début, parce qu'on le voyait sur le planning qui s'annonçait, j'avais dit au début, bon, les premiers risquent d'être pleins, ne serait-ce que parce que les gens vont pouvoir ressortir et y aller et ça va leur faire plaisir. Mais attention à ceux qui seront en fin de cycle. Le fin de cycle, on l'approche. Parce que là, à un moment, les professionnels, eux vont commencer à un moment dire, je suis obligé de choisir, il faut que je bosse. Parce que de la même manière, dans ces mois-là, moi, il faut que je produise et ça n'a peut-être pas été aussi facile que d'autres années avant. Or, nous savons que nous avons les clients dans nos cabinets. C'est pas un sujet de manquer de clients et de demandes de ce côté-là. Donc il va y avoir un moment où nos professionnels, ils vont pas pouvoir aller partout. Et quelques événements qui viennent de passer, je l'ai vu. Je trouve que on a eu des remplissages et des ambiances qui étaient très très fortes au début, et là maintenant ça me paraît plus sélectif. Je le vois plus partout. Je pense vraiment qu'il y en a. Je pense qu'il y en a.
On marque un peu le pas. Alors hier, on était le. Il y avait un sommet BFM Patrimoine qui s'est tenu. Radio Patrimoine était associé. Vous pouvez retrouver certaines interviews sur notre site. David, vous y étiez également, et on a vu les patrons de chambre qui étaient là, tous réunis. C'est une première dans ce sommet.
Oui, alors soyons très clairs, hein, c'est pour l'instant une convention BFM Patrimoine, mais enfin c'est NCGP et nous sommes l'ANACOFI. Ceci étant dit, on a été invité à former une table des quatre présidents dans ce sommet, et donc on n'a pas de raison de dire non. Dans nos événements, il nous arrive d'inviter aussi les présidents ou les responsables des autres organisations professionnelles. Encore une fois, on n'est pas en guerre, et les derniers affrontements qui étaient très partiels entre nos associations datent de bientôt 10 ans et étaient sur des sujets très très pratiques, donc il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pas d'hésitation à inviter un de mes pairs, président d'assos ou délégué généraux d'une autre association, à une de nos tables rondes. Et il y a quelques minutes, il y en avait un qui était là, je lui ai proposé de rester avec nous. Voilà, il pouvait pas, mais voilà, l'ambiance entre les associations est très très loin de ce que certains ont pu essayer de vendre, probablement d'ailleurs pour laisser imaginer une guéguerre qui faisait vendre.
Alors, de l'eau a coulé sous les pontes, et c'est tant mieux. En tout cas, voilà, la profession se doit d'être soudée. On reparle, tiens, de ce qui se passe au Parlement. Beaucoup de choses cette semaine, avec notamment cette petite révolution, peut-être, dans l'assurance emprunteur. Ça pourrait faire évoluer les choses. On parle de plusieurs milliards d'euros de pouvoir d'achat qui pourraient être économisés chaque année par les Français.
Oui, on voit qu'il y a un sujet autour de l'assurance emprunteur, hein, il est majeur, hein. Vous avez vu que certains acteurs disent je vais plus avoir de questionnaire santé, il y a de grands débats, c'est récurrent, ça revient, c'est des vagues. Quand vous avez fini d'en traiter une, il y en a une suivante. On voit bien qu'au CCSF, le sujet, quel que soit le ministre, nous est remis sur la table à chaque fois. Et là, ce qui a été marquant, outre les annonces d'arrêt de questionnaires de santé, qui en eux-mêmes sont quand même assez significatifs, pour certaines classe de population et dans certaines situations, enfin, c'est nouveau, c'est que hier est passé à l'Assemblée nationale texte qui dit qu'on pourrait avoir une résiliation à tout moment du contrat, et on pourrait donc changer à tout moment de contrat quand on est un emprunteur. Voilà, alors on va voir ce que ça donne, parce qu'il faut une navette. Il y a eu de grands combats. Moi, j'ai suivi ces combats-là. L'ANACOFI y est associée, en ce qu'elle dit depuis le début, que le mieux pour le client nous va très bien, puisqu'on est on représente les conseillers du client, et qu'aujourd'hui il y a un certain nombre de verrous là-dessus qu'on peut juger dérangeants. Donc nous, ça nous va très très bien, une résiliation à tout moment. D'autres schémas auraient été possibles, mais il se trouve que il y a ça sur la table, ou quelque chose qui de l'autre côté nous va pas forcément.
Donc, un marché verrouillé pour l'instant par les banques à 88%.
Oui, alors voilà.
Tant que ça s'ouvre, ça aussi.
C'est-à-dire que les banques nous disent les prix ont baissé, donc le consommateur est gagnant. Puis regardez, ils sont bien contents chez nous, puisque massivement ils sont chez nous, ou sur des contrats externes, quand même, ça se développe. Quand on regarde ce que sont les contrats externes, c'est les contrats de leurs filiales, et en général proposés dans leurs agences. Donc bon, très bien. Donc oui, le consommateur a gagné, très bien. Le sujet derrière, c'est est-ce qu'on peut avoir un traitement équitable entre les professionnels quand ils essayent d'aider le client. Et est-ce que le client n'aurait pas intérêt aussi à ce que ce jeu fonctionne bien quand un autre professionnel amène quelque chose? Et puis, on ne va pas parler des blocages autour du crédit, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a de la part des banques une tension vis-à-vis de tout ce qui est IEB et courtier, qu'on n'a pas généré au départ, mais qu'on subit. Oui. Hein, tant et si bien d'ailleurs que c'est plus un secret, puisqu'il a fallu que le ministre de l'économie dise à un moment « Oui, j'en suis conscient, je l'ai vu, mais je le traiterai pas », ce qui pour nous a quand même beaucoup perturbé, mais ça veut dire que même à ce niveau-là, c'est vu. Hein, puis ça a été dit de façon publique. Voilà. Donc il y a un sujet, et là, pour le coup, c'est vrai que c'est un peu une bombe atomique, ce texte-là, ça serait un peu une bombe atomique pour finalement trancher un sujet qui revient en boucle. Hein. Ouais, je dis, moi, je siège depuis 6-7 ans au CCSF, j'ai l'impression que tous les ans, ça nous est revenu et j'ai vu un nombre de textes incalculables pour que finalement les choses changent en termes de prix, mais ne changent pas tellement en termes d'organisation du marché.
Oui, bien sûr. Alors, on voit aussi des modèles qui changent, le Crédit Mutuel en particulier, qui a annoncé aussi plus de questionnaires santé pour cette assurance. Ouais. On sent que ça commence à se décoincer. Ils anticipent peut-être sur une future loi à venir. David, on parle aussi des suites du Covid. On va suivre quand même cette peut-être cinquième vague dont on parle beaucoup dans les médias. On voit depuis cette semaine, alors on répond à ceux qui se posent la question, on tourne cette émission le 26 novembre, ça flanche, la bourse commence à la baisse de 3-4%, l'ensemble du marché prend peur un peu comme ce qui s'était passé lors de la première ou deuxième vague.
Oui, bon, ce qu'on a appris, c'est que sur la bourse, ça peut très bien rebondir, mais c'est vrai que si on avait une vague impactante lourdement dans les différents États, et ce qu'on voit dans certains pays peut être un peu inquiétant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Covid a des effets de partout. Dans nos organisations, dans nos entreprises, on est obligé d'en tenir compte. On a dit, on arrête le télétravail, mais on voit quand même bien que pour rassurer les équipes, on est obligé d'avoir accepté une dose de télétravail. En termes d'organisation de l'entreprise, c'est pas neutre. On voit que, quoi que l'on en dise, il reste quand même un certain nombre de clients, voire de professionnels qui disent, je veux pas trop me déplacer ou limiter en tout cas ça. On voit que sur les marchés, quand ils voient qu'un pays commence à fermer, en logique, il va y avoir des effets économiques, donc il n'est pas anormal d'avoir des effets à la bourse. Pour autant, on a fini par dire, on vit avec, donc si on perd moins 4, peut-être on gagnera plus 5 demain. Voilà. Il y a des effets. Ces effets sont nombreux. Ils sont dans tout un tas de domaines. Et pour nos business, pour nos entreprises, tout autant que pour l'ensemble de l'économie et des pays, on n'en a pas fini du tout. Et je pense qu'on commence, pour ceux qui dirigent des entreprises ou des organisations, on commence simplement à prendre conscience de ces effets, de ce que moi j'appellerais pas une vague, mais de cette traîne que nous laisse ce Covid. Pour là, ça va peut-être repartir en vague, mais de cette traîne, il existe encore. Et
on est dans un Covid long au niveau de l'économie.
C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. On est dans une situation de Covid long et on avait imaginé qu'à un moment on en aurait la peau, alors peut-être pas tout de suite, mais qu'on en aurait la peau et terminé. Non, je pense qu'on va avoir des traînées un peu partout en termes d'organisation, de manière de vivre, etc. Et de gestion de l'économie. Et on parle de s'adapter pour l'ESG, mais si on continue comme ça, va falloir penser à s'adapter tout simplement. S'adapter dans le temps long pour le Covid, parce que si on se tape 15 ans comme ça à coup de rebond, on voit bien qu'on arrive à fonctionner, mais donc il faudra changer.
Vous allez être vacciné 36 fois.
Ah ouais, mais il faudra changer de fonctionnement pour avoir quelque chose de durable, parce qu'aujourd'hui des équipes qui sont que partiellement présentes, des chefs de projet à qui on peut dire non mais d'accord, je comprends que tu puisses pas venir parce que quarantaine, ça pourra, enfin voilà, on s'est adapté très très vite, on a trouvé un modèle très vite, mais est-ce qu'il est valable dans la durée, c'est une question.
On va en reparler justement de ces effets de bord Covid sur justement la formation dans un instant dans les actuelle d'Incofi. On termine avec la bataille autour des rémunérations.
Oui, ça fait des mois que c'est reparti, donc il y a tout un tas de consultations. On pourrait parler de plein d'autres consultations. Bruxelles se déchaîne. Ceci dit, c'est pas nouveau. Il y a quelques, juste au sortir de la première vague Covid, on le disait déjà. Mais là, c'est un déchaînement de textes de toutes parts. Et bien sûr, là-dedans, se joue la bataille sur les rémunérations.
Alors, les rémunérations de qui, de quoi on précise ?
Celle qui nous intéresse, c'est-à-dire celle des conseils intermédiaires. Le reste, à la limite, de toute façon, ils y auront toujours le droit. Mais c'est un peu plus global que ça. C'est l'ensemble de l'écosystème pour lequel on pose la question des rémunérations, le montant, la nature, la transparence, etc., etc. Donc là, on arrive un peu au bout de cette bataille. Dans les jours et dans les semaines à venir, chacun va révéler, je pense, ce que sont les résultats de soit de ses travaux, soit de ses analyses. Après les analyses, parce qu'on en a déjà rendu tellement, et de ses avis. Et là, on arrive en fin de cycle de tout le monde va poser ses cartes. Je ne sais pas si tous les éléments seront déjà rendus publics quand l'émission passera, mais c'est vraiment des questions de jour, là, pour certaines données. En tout état de cause, en janvier, je pense que la partie sera à peu près jouée. Ou en tout cas, toutes les cartes seront posées sur la table pour tous les camps.
On aura l'occasion d'en reparler dans le club Anacofi. Allez, tout de suite, justement, on va s'intéresser à l'actu de l'Anacofi. C'est tout de suite.
Club Anacofi, l'actualité.
L'actualité, David, de l'Anacofi, c'est que vous revenez beau et bronzé de la semaine créole qui s'est passée cette année. à La Réunion.
Oui, enfin bronzé, pas tant que ça. Je pense que là, pour ceux qui me voient, vous ne me voyez pas forcément, on est à la radio, mais pas tant que ça. On est allé bosser à La Réunion, donc c'était très sympa, mais on est allé y animer cette zone qui est le principal des territoires en termes de nombre de cabinets outre-marins, hein, pour la NACOFI. On en a dans tous les territoires outre-marins, mais c'est là qu'on en a le plus sur un territoire.
Ça fait longtemps que vous n'étiez pas venu, puisque cette semaine créée, on le rappelle, elle tourne.
Non, parce que de fait, elle tourne entre les Antilles et La Réunion, et on fait des poussées, malheureusement seulement ça, vers la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie. On peut pas faire tellement plus. C'est-à-dire qu'en gros, quand on a un contrôleur CIF qui doit y aller, il s'occupe un peu là-bas. Et on a une représentation en Nouvelle-Calédonie, donc elle se dérouille un peu sur place avec de temps en temps quelqu'un qui arrive et c'est tout. Un de nos salariés et qui va venir l'aider à faire quelque chose, mais basta. Donc pour le reste, ça se joue entre les Antilles, et quand je dis les Antilles, ça couvre jusqu'à la Guyane, mais pour nous, la région, c'est toute cette zone-là. Et donc cette année, c'était La Réunion, l'année prochaine, ce sera les Antilles. Quelque chose me dit que c'était pas plus mal, quand je vois la situation aux Antilles actuellement, parce qu'on n'aurait pas pu la faire, en fait, il faut être très clair. Hein. Il faut que les gens puissent se déplacer pour nous rejoindre, et là, c'était pas possible. Ouais. Voilà, donc on est allé voir ce qui se passe du côté de ce territoire, qui se passe pas mal, hein. C'est vraiment un endroit où il se passe des choses pour la NACOFI, et on a, je pense, eu des invités. Enfin, on a un rayonnement réunionnais qui est très correct. Et on a surtout un administrateur des DOMCOM de la NACOFI qui est lui aussi réunionnais, donc ça facilite aussi peut-être les choses, mais voilà.
Ça fait le lien avec ce qu'on disait en début d'émission sur les événements. Là aussi, on sent la volonté peut-être moins d'assister à des plénières, mais surtout de se retrouver, d'échanger en face à face.
Ouais, on l'a vu. Sur cette semaine réunionnaise, mais pas que. On le voit aussi. Là, on est donc en plein Tour de France et on passe un peu partout. Hein. Il nous reste Strasbourg, Nantes, Rennes. On avait prévu de faire une douzaine de régions, il en reste plus que 4, je crois, mais on est en plein milieu de ça. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a un peu moins de monde qu'il ne devrait y en avoir, vu la rareté qu'on a créée dans les modules, dans tout ce qui est présentiel type formation. C'est pas vrai sur tout ce qui est type événementiel, mais ça reboucle sur l'étude qu'on avait faite en avril. Hein. En fait, nos adhérents sont cohérents. Il se passe ce qu'ils nous avaient dit dans les études que l'on avait faites pendant le Covid et au sortir des pires moments. Ils sont suffisamment présents pour qu'on puisse monter du présentiel, mais moins qu'avant, alors même qu'on fait moins de dates. Ils se sont mis à aimer la classe virtuelle assez fort, alors même qu'on croyait qu'il y avait une réticence, donc on la mettait parce que c'était un système palliatif.
Réticence avant, adoption pendant, et maintenant
conservation après.
On garde le modèle hybride finalement.
Mais si on regarde bien, c'est une répartition de la population, parce que j'en ai qui viennent en présentiel, d'autres qui prennent le e-learning. La majorité est aujourd'hui sur du e-learning, il faut être très classique. Alors même qu'on leur offre toutes les alternatives, présentiel et classe virtuelle. Par contre, on pensait que la classe virtuelle, elle mourrait un petit peu. On avait prévu d'en mettre, mais qu'elle mourrait un peu, parce qu'il y avait deux extrêmes. Il y avait tu es tout seul devant ton ordinateur avec un machin qui te balance que tu dois lire et répondre à des questions, et puis des exemples. Bref, tu es tout seul, quoi. Et puis de l'autre côté, mais tu le fais à ton rythme, par contre. Tu veux revoir des humains en formation, et ça se jouerait entre ces deux-là. On a laissé un peu la classe virtuelle par sécurité. Finalement, on voit qu'elle a sa réelle place, et que parfois, quand on annule un module prévu en présentiel, parce qu'on voit qu'il y a trop peu d'inscriptions, on le maintient en classe virtuelle, on demande aux formateurs de passer dans le mode classe virtuelle, et on balance un message à nos membres, et elle se remplit. Et elle se remplit facilement, elle se remplit en 24 heures. Quoi. Donc
C'est-à-dire qu'elle se remplit davantage que si on avait dû organiser tout ça en présentiel, surtout.
Oui, si ce n'est quand même qu'il ne faut pas négliger un point, c'est que quand on fait cette com, ça devient national, alors qu'en présentiel, c'est régional. On fait notre tour on vient d'annuler, par exemple, un module à Nantes. Les autres seront maintenus, mais il y en a un qui est annulé. On a fait une communication nationale. Le module est rempli en 24 heures, certes, mais il est rempli aussi par des gens qui peuvent être un peu partout en France. Donc voilà.
Donc il y a un changement, là, on est déjà sur le monde d'après.
Oui, mais avec toujours, par contre, quelque chose qui se remplit très bien, le côté un peu événementiel, on se retrouve. Quand on fait de la formation, qu'après on finit par une très courte conférence sur un sujet d'actualité très concret qui intéresse les membres, et qu'on enchaîne par le fait d'aller boire un verre, manger un morceau, mais en mode, même en mode professionnel, clairement, pour coworking ou autre, ça marche très bien, c'est plein. Donc, et encore une fois, nos membres nous l'avaient dit en avril, formation digitale, on préfère maintenant. Événement, ça dépendra de ce que c'est. Il y en avait autant qui disaient « je veux du digital que du présentiel pour faire très court hein, et je ne veux que ça ». Et l'immense majorité, plus de 60%, disaient « moi, ça dépendra de ce que c'est ». Et on voit bien quand on fait un truc intéressant de type événement, par contre ça vient. Je reboucle sur ce que j'ai dit tout à l'heure, attention à ce qu'il n'y en ait pas trop. Et aujourd'hui, je pense que c'est un autre élément de la problématique.
Dans l'actu Anacofi, évidemment, on prépare déjà l'année 2022, une année chargée, hein, réforme du courtage, ESG, deux gros chantiers pour cette nouvelle année.
Oui, réforme du courtage, on n'a pas le choix. Hein. On est prêt à déposer dossier, ou à peu de choses près. Hein. Je pense que là, on a une première version du dossier.
Il y a une deadline pour que vous soyez prêt.
Il y avait une deadline théorique qui était d'essayer de déposer avant fin novembre, mais enfin, comme on n'a pas forcément eu toutes les réponses que l'on voulait, ni le retour des décrets, ni enfin, tout un tas de choses, on nous a bien laissé comprendre que décembre, c'est pas grave si on déposait en décembre, donc du coup, je pense qu'on s'est mis en ordre de bataille les uns les autres.
Idéalement, il fallait être prêt le 1er janvier
Non, idéalement, alors c'est nous qui souhaitons tous être si possible prêts pour le 1er janvier, c'était la CPR qui souhaitait avoir validé tout d'ici au 1er janvier, puisqu'il faut fonctionner au 1er avril. Voilà, ça c'était l'objectif départ, tout en nous disant, bon, si c'est février, c'est pas très grave, de la même manière qu'aujourd'hui, on dit, bon, bah, si les dossiers sont déposés en décembre, c'est pas très grave non plus. Donc tout le monde se cale sur décembre, parce qu'on attendait, on entend que le Conseil d'État est dessus, il a peut-être fini, mais on n'a pas encore le détail de ce qu'il aurait maintenu ou modifié. Nous, on a, en tout cas, on a une première version du dossier qui est prête à être déposée. Quand cette émission passera, quoi qu'il en soit, on aura fait le Conseil d'administration de validation de ce dossier, donc nous, on sera prêt à déposer à des pouillèmes de choses près, des pièces à ramasser administratives et à joindre au dossier, mais on sera prêt, sous réserve bien entendu, qu'il n'y ait pas de lourdes modifications au Conseil d'État, mais enfin, en un ou deux jours, on sera capable de s'adapter quoi qu'il arrive, enfin, j'ai le dossier en tête, on serait capable de s'adapter à quoi que ce soit du moment qu'on nous fiche la paix pendant deux jours pour pouvoir leur bosser, quoi. Donc voilà pour ça. ESG, c'est pareil. ESG, on voit énormément de consultations, de décisions qui commencent à être prises. Les dernières que j'ai vues ne concernent pas directement, mais on sait que d'autres vont le faire. Donc, ce sera un sujet 2022. Ça, c'est absolument certain. Mais l'équipe qu'on a construite sur ces sujets-là, avec des présidents de commission que vous avez reçus d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, peut parfaitement traiter ce truc-là. Et donc, voilà. Mais ce sera un sujet 2022. Ça, c'est clair aussi. Mais la réforme du courtage sera quand même, à mon sens, au cœur de ça. Ça, plus la réforme des DA et MIF, ce sera l'année 2022. Et donc, pour nous, réorganisation interne, on finit la réorganisation interne qui allait avec. L'Anacofi Yob, nous avons reçu la confirmation qu'elle était juridiquement dissoute. Donc maintenant, on va s'occuper de cet Anacofi courtage, qui de toute façon, même si l'Anacofi Yob n'avait pas été dissoute, avait reçu mission de l'Anacofi de porter tout ce projet et de la représentation de ces Yob et de ces IAS, intermédiaires en assurance, pour le compte de l'ensemble des entités Anacofi.
Très bien. IOB, fini, on appelle ça Anacofi Courtage. Hein,
on appelle ça Anacofi Courtage et Anacofi Assurance et Anacofi IOB sont des noms maintenant des collèges internes.
Très bien. L'offre 2022 aussi qui se prépare, hein, alors elle est évidemment contrainte par Covid.
Oui, on essaye d'imaginer ce que pourrait être l'offre. Alors quand je dis l'offre, c'est l'offre associative, hein, c'est nos actions. Là, on parle de propositions à nos membres, et propositions du coup à nos partenaires qui vont nous suivre là-dessus. Donc c'est les Tours de France, c'est les événements, c'est les déploiements de formation. On commence à travailler là-dessus. L'offre pour que les uns et les autres décident de venir nous rejoindre, elle sera prête sous une semaine, donc on commence pas. Elle va être très très vite, très très vite terminée. Après, il faudra voir comment on peut déployer. En fonction des retours des partenaires, on avisera. Mais on est en train de finaliser cette offre avec quand même, on va être très ambitieux. D'autant qu'on peut imaginer qu'avec la réforme du courtage, on aura plus de membres. Donc malgré tout, même s'il y a moins de présentiel souhaité en proportion, mais sur un nombre plus important, on pourra peut-être avoir des opportunités. On va être assez ambitieux en essayant de réfléchir à comment on pourrait avoir, et pour ceux qui connaissent l'Anacofi, c'est pas rien, et notre convention annuelle au Carrousel du Louvre, et une université d'été, et notre grand débat de fin d'année, plus un Tour de France tel qu'il avait été prévu pour l'année où le Covid nous a frappés. Et je vous rappelle qu'on avait pris une grande réforme notre manière de faire les Tours de France. Déjà à l'époque, disait-on, plus événementiel. Attention, plus événementiel, ça veut dire plus rare, mais plus complète, plus dense, avec une offre, quand on arrive sur un territoire, plus large.
Est-ce que David, comme votre homologue du cyclisme, vous avez déjà les étapes du Tour de France en tête ? C'est calé ?
Alors, on n'en a pas l'ordre, mais dans la réforme prévue au départ pour 2020, ce qui avait été prévu, c'est que là où aujourd'hui on faisait l'équivalent de 3 Tours de France, hein, et on passait dans certaines villes 4 fois, mais jamais moins de 2 fois dans les grandes, et on passait dans plein de petites villes, l'idée générale de la réforme, c'était de dire qu'on passerait dans 10 à 12 villes capitales régionales. Alors, la capitale régionale, pour nous, peut ne pas être la capitale administrative historique.
Hein, d'accord.
Enfin, administrative. Plus rajouter 4 zones événements, parce qu'historiquement, elles ont trouvé leur marque. Et par exemple, on pourrait parler de la Semaine Basque qui se passe à Biarritz, on pourrait parler de Deauville, on pourrait parler de choses comme ça. Et ensuite, de ne faire que des projections complémentaires quand elles sont nécessaires, pour les grandes villes, Lyon et autres, mais de ne plus avoir ce qu'on a eu, c'est-à-dire 3 Tours de France, dès qu'un s'arrêtait, l'autre démarrait. Ça, c'est terminé, d'autant que ça donnait des passages de 2 jours dans une ville ou de 3 jours dans une ville. Donc, on avait décidé de réorganiser ça et d'emmener des partenaires avec nous, y compris des centres de formation, qui ne sont pas nous, mais partenaires. Enfin voilà, on avait vraiment repensé ça. Et donc j'ai pas l'ordre, mais par contre c'est clair, si je vous dis une douzaine de villes plus les 4 ou 5 événements particuliers, ça vous donne à peu près ce qu'on va faire, quoi.
Exactement, donc moins mais mieux, c'est entendu, et plus événementialisé. On termine tiens avec quelque chose de plus actuel, et on est ravis d'y participer et de s'y associer à nouveau, puisque c'est là où a démarré l'aventure Radio Patrimoine, le grand débat qui aura lieu fin décembre, David.
Alors, mi-décembre, 14 décembre. Alors, fin d'année, parce que ça clôturera notre année, ou presque, puisqu'ensuite, il y a le passage à Nice pour l'Anacofi. Le Tour de France se termine à Nice cette année, d'ailleurs comme souvent maintenant. Mais donc, on aura le grand débat au Cercle Interallié, prévu le 14, bien sûr, sur invitation. Alors, pour le coup, hein, c'est un grand débat qui a la particularité d'être très orienté vers des invités extérieurs. C'est vrai qu'on a un quota de nombre d'adhérents très limité, et de l'autre côté, on a des invités, c'est sa particularité. C'est réservé aux adhérents pleins de l'Anacofi d'Île-de-France, pour nos membres, avec très peu de place, donc c'est vite pris. Pour eux, c'est donc leur débat local et régional de fin d'année. Et puis, le reste, ce sont des invités. Et quand j'ai vu la liste hier des gens à qui ça partait, bon, ça va être plein. Dès qu'on va l'avoir envoyé 2 heures après, ce sera plein, hein. Ça c'est très clair, y compris d'ailleurs pour nos membres à mon sens, parce que le Cercle Interallié c'est pas un endroit gigantesque en termes de place disponible. Voilà.
Cravate de rigueur, on le rappelle.
Alors, cravate de rigueur, faut pas venir en jean, c'est le Cercle Interallié. Hein. Alors, habituellement, c'est 2 tables rondes minimum, et des fois, on rajoute une intervention, une présentation, il y a un rapport du moment. Là, c'est un petit peu différent. L'AMF a demandé à avoir une intervention autonome, donc on a creuser un trou dans le programme pour pouvoir permettre au secrétaire général de l'AMF de venir faire passer ses messages, puisqu'il le souhaitait. Je rappelle que nous relevons du contrôle de l'autorité des marchés financiers sur notre partie CIF, donc il y aura peut-être aussi un certain nombre de messages autour de ça, puisqu'il aura forcément vu ce qui relève du rapport qu'on a reçu et des réponses qu'on a apportées à l'autorité des marchés financiers. Ou pas, d'ailleurs, il n'en parlera peut-être pas, c'est peut-être pas ça qu'il veut venir dire. On aura aussi une remise de prix, puisque ce sera la première remise de prix des mémoires et thèses de l'Anacofi. Donc ce sera en introduction. Nous aurons ensuite une table sur l'évolution de nos métiers. La question qu'on se pose, c'est est-ce que tout ce qui est annoncé, ça nous annonce une évolution ou une révolution de nos métiers, à l'image de ce qui s'est passé un peu en 2008, en 2007, voire au début des années 2000, ou pas? Ou est-ce que c'est simplement une évolution naturelle qui est en train de se passer? Et puis la deuxième table sera autour de L'élection présidentielle, c'est qu'est-ce qu'il y a dans les programmes, qu'est-ce qui se passe, quels sont les enjeux, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir, et qu'est-ce que nous on a apporté. C'est-à-dire voilà, quelles sont les idées, et nous on prépare des propositions. On les a déjà préparées. Il y a déjà quelques personnes qui les ont reçues en mode draft. Mais voilà, et donc cette table là. Ça permettra de clôturer le grand débat. Après quoi, peut-être que nous trouverons un moyen. Alors tout ça est animé hein, par les échos, mais nous trouverons ensuite un moyen de fêter vos 3 ans, puisque effectivement vous êtes nés là. Nous trouverons un moyen de faire ça dignement, de fêter les 3 ans de Radio Patrimoine dignement avant que de fermer le rideau sur cette année en termes d'événements, excepté bien sûr ce dernier passage à Nice.
C'est prévu en tout cas, il y aura des surprises, on aura l'occasion d'en parler. On se retrouve, David, donc du coup le 14 décembre pour ce grand débat de l'Anacofi qui s'annonce à nouveau passionnant. On a fait le tour, merci David Charlet, c'était un plaisir. On se retrouve eh bien, dès le mois prochain ou à la rentrée pour un nouveau numéro du Club Anacofi.
Club Anacofi, l'émission dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine sur Radio Patrimoine.